Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Jean Mermoz n'est pas seulement un nom de rue ou de collège. C'est un des plus grands aviateurs français de tous les temps. En 1920, il commence à voler avec l'armée de l'air française, puis il rejoint l'aéropostale où il est chargé des liaisons entre l'Europe et l'Afrique, puis des vols vers l'Amérique du Sud. C'est ainsi que le 9 mars 1929, à 10h, Jean Mermoz et son mécanicien volant Alexandre Coleno décollent de Copiapó en Argentine en direction de Santiago du Chili. Mais plutôt que de contourner les montagnes par le sud, pour gagner du temps, Mermoz décide de foncer tout droit en pleine cordillère des Andes, où les sommets s'élèvent en moyenne à 4000 mètres, jusqu'à 6900 mètres pour le plus haut. Aucun avion ne s'y est encore risqué. L'aviateur mythique espère trouver une faille, un couloir entre les montagnes ou s'engouffrer. Sauf que le Latécoère qu'il pilote ne peut monter qu'à 4200 mètres. Mermoz compte donc sur des courants ascendants pour traverser les pics rocheux. Mais une fois qu'il a passé les premiers sommets, les courants disparaissent brusquement. L'avion commence alors à chuter, puis de plus en plus vite. Jusqu'à ce qu'in extremis, Mermoz réussisse un atterrissage catastrophe sur un plateau cerné de ravins, les moteurs complètement en panne. Ici, la température descend jusqu'à moins 15. Sans vivre, les deux aviateurs ne peuvent aller nulle part. Deux jours durant, Coleno tentera de réparer l'avion, secondé par Mermoz. Ils bricolent, utilisent leurs vêtements pour colmater les fuites du radiateur. Enfin, le 11 mars au matin, les deux hommes réussissent à remettre les gaz, glissent sur un terrain au bord du précipice et rebondissant sur trois obstacles repérés par Mermoz, ils projettent l'appareil vers le ciel. Échappés de cet enfer de glace, les deux aviateurs atterrissent à midi dans la ville d'où ils étaient partis. Et c'est seulement en juillet 1929 que Mermoz devient, à bord d'un nouvel avion, le premier pilote à rallier Buenos Aires et Santiago du Chili par la fameuse cordillère des Andes. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, deux autres héroïnes de l'extrême qui ont vécu le pire, mais elles aussi sont remontées en selle, le grand frisson, deux histoires racontées par Alice Milo.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Alors, déjà, je suis tombée amoureuse de la montagne quand j'étais petite. Mon père nous emmenait avec mon frère et ma sœur faire des randonnées en montagne. J'ai fait mon premier Mont Blanc quand j'avais 13 ans, et là, je suis tombée amoureuse de la haute montagne. Et très vite, j'ai voulu devenir guide de haute montagne. J'habitais avec mon père à Saint-Gervais, je travaillais dans un resto en montagne et tout mon temps libre, je le passais à skier, à faire des courses en alpinisme avec des amis et à me préparer à l'examen qui permet d'entrer à l'école qui forme au guide. Et donc début mai, avec un copain, on décide de faire l'aiguille verte, un 4000, et on décide de le faire par une voie la plus facile, c'est le couloir Whymper, donc en face sud. Tout se passe très bien. Mais je me dis que voilà, le couloir Whymper était presque trop facile. J'ai envie de rendre la chose plus difficile et j'ai envie d'y aller seule. Donc je commence à avoir un peu cette idée du couloir couturier en solo. En fait, c'est une période de ma vie où j'avais quand même une très faible estime de moi-même et j'étais toujours obligée de faire des choses assez extrêmes pour avoir un minimum de respect pour moi-même, de penser que j'avais de la valeur. Et c'est vrai que ce couloir, c'était probablement une façon de me prouver à moi-même que je pouvais faire quelque chose de grand et de le réussir. Donc cette idée mûrit dans mon esprit. Il y a un créneau de beau temps qui se profile. Je décide de partir le dimanche 12 mai. Je dis pas à mon père que je pars seule. Je prépare mon sac. Le but, c'est d'avoir un sac léger. Alors je prends pas de corde et j'hésite à prendre ma grosse doudoune d'alpinisme d'hiver. Je décide de la prendre. À la gare du téléphérique, j'en rencontre un couple qui décide de faire l'aiguille verte par le même itinéraire que moi. Donc on se dit pourquoi pas se lancer ensemble dans le couloir. Sans être en corde et juste se suivent de loin. Et donc on guette la météo, bien sûr, du lendemain. Le bulletin météo tombe, grand soleil, pour une journée par contre. Et après, ça se gâtait pour au moins 3-4 jours. Donc on se dit que c'est bon, on part demain. Je suis hyper excitée, j'ai mon solo en tête, le couloir, le sommet, j'ai envie d'y aller, je suis voilà, hyper contente. Donc on fait l'approche, on arrive au pied du couloir, on met les crampons, on prend les piolets. Il est 4 heures et je planifie d'arriver au sommet vers 8 heures. Pour que la face sud soit encore en bonne condition pour la descente. Donc on se lance tous les trois dans ce couloir. On a deux piolets dans chaque main. C'est un bras après l'autre. Je pars devant. Je les distance assez rapidement. Et on arrive à un petit passage en glace. Donc là, le couloir devient un peu plus raide. Donc on commence vraiment à être plus sur l'avant des pieds. J'ai pas fait beaucoup de glace avant dans ma vie. Je prends le temps de bien ancrer à chaque fois mes piolets, mes crampons, d'être sûre de mes points d'ancrage. Et donc là, ça devient assez délicat, surtout pour Laura, qui, je crois, avait jamais fait de glace. Là, Cyril m'appelle. Et donc un peu à contre-cœur, eh ben, ils redescendent. Et moi, je continue. Et donc assez vite, bah, je me retrouve vraiment toute seule. Avec eux qui s'éloignent vers le bas, moi qui m'élève, je suis venue faire un solo, je me retrouve vraiment toute seule. Et je savoure beaucoup cet instant, je suis très heureuse d'être là. Jusqu'au moment où j'arrive proche du sommet, je le vois, et j'arrive à de la glace mauvaise. La glace est un peu noirâtre, elle éclate sous les piolets, donc mes points d'ancrage ne tiennent pas. Pareil pour les crampons, je les plante, mais ils glissent, ils dérapent, donc c'est pas du tout rassurant. Surtout qu'à ce moment-là, donc j'ai peut-être avoir 700 mètres de vide derrière moi, donc une chute n'est pas envisageable. Donc à ce moment-là, il est encore possible de faire demi-tour, sauf que je vois le sommet, il est tout proche, j'ai envie de finir cette ascension. Donc je force un peu, je redouble d'efforts, de concentration, j'essaye d'avancer dans cette glace qui est quand même vraiment mauvaise. Jusqu'à un moment où vraiment mon piolet a lâché, et c'est mon autre piolet qui a rattrapé la chute. Et là, ça m'a fait une grosse frayeur, et j'ai réalisé que ben non, ça allait pas le faire. Je fais demi-tour. Et là, j'arrive pas en fait à redescendre dans cette mauvaise glace. Faut savoir qu'il est beaucoup plus facile en fait de monter en glace ou en escalade que de descendre. Donc je réalise que je suis bloquée en fait. Donc du coup, pas du tout fière de moi, je décide d'appeler le PGHM, donc les secours. Je sors mon téléphone et je réalise à ce moment-là que j'ai pas de réseau. Là, je me sens vraiment seule et en plus, c'est très connu que dans ce couloir et dans tout ce secteur de Chamonix, il n'y a pas de réseau et je le savais pas. Et je sais pas si je me serais lancée dans ce couloir comme ça toute seule si j'avais su ça. Et voilà, et donc là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à paniquer et à réaliser en fait la gravité de ma situation. J'ai quand même essayé de me calmer assez vite. Donc déjà, je décide de me vacher, c'est-à-dire de planter une lame de métal dans la glace qui me permet de m'accrocher et donc de m'asseoir dans mon baudrier, ce qui me permet de reposer mes jambes qui étaient extrêmement fatiguées et mes bras. Et donc là, je souffle un petit peu. Et ensuite, je décide de me faire repérer, de faire des grands gestes et d'appeler au secours. Donc ce jour-là, il faisait très beau et il y avait énormément de passages sur le glacier d'Argentière qui est au pied du couloir. Et à plusieurs reprises, en fait, je vois des gens sur le glacier qui font demi-tour et qui redescendent vers la vallée. Donc je me dis, ça y est, ceux-là m'ont vu. D'ici 10-15 minutes, l'hélico sera là. Sauf que l'hélico ne venait jamais. Je savais que le mauvais temps arrivait. Donc je savais qu'il fallait que je sorte, donc j'hurlais vraiment de toutes mes tripes. Et puis fin d'après-midi, toujours pas d'hélicoptère. Rapidement, je me retrouve dans le brouillard, et donc faut que je fasse quelque chose. Et à quelques mètres au-dessus de moi, je vois un peu une ouverture dans la glace, une sorte de crevasse. Et donc la nuit arrive, et y a pas d'autre, en fait j'ai pas d'autre choix que de me mettre dans ce trou. Donc du coup, je décide de l'aménager un petit peu, enlever toute la neige qu'il y a dedans. Donc c'est quand même très inconfortable, j'ai les épaules rentrées, les jambes un peu de travers, et je mets mon sac au-dessus de ma tête, à l'entrée de la crevasse, en guise de toit. Évidemment, je dors pas. Bien sûr, j'ai mis toutes mes couches de vêtements sur moi. J'ai mis ma capuche, que j'ai entièrement fermée. J'ai le visage complètement isolé du froid. En fait, j'avais aucune idée de si j'allais survivre à cette nuit. Et la nuit est très longue. Et puis finalement, voilà, la nuit passe et le jour arrive. Donc je pousse mon sac à dos et là, horreur en fait, c'était pire que la veille, c'était la tempête. Il neigeait, brouillard, on voyait rien. Et puis finalement, je décide quand même de partir. Et comme il a un petit peu neigé pendant la nuit, il y a une couche de neige qui a recouvert la mauvaise glace, qui me permet d'avancer bien plus haut que la veille. Et puis là, en fait, petit à petit, de moins en moins de neige, un passage raide de nouveau et de la mauvaise glace de nouveau. Donc je m'arrête. Je sais très bien que l'hélico ne vole pas par des temps comme ça. Et je sais que le mauvais temps est là pour plusieurs jours. Et donc je prends la dure décision de me réinstaller dans mon petit trou. Et j'ai l'horrible sensation que je suis en train de creuser ma propre tombe, en fait, et que je vais m'installer dans ma tombe. Et donc la deuxième nuit passe, et je me réveille en panique au milieu de la nuit, avec un besoin de boire qui est très fort. Je me jette sur la neige, et j'en prends un paquet en fait dans ma bouche. Ça apaise pas du tout la soif, et je me demande en fait, au bout de combien de temps on meurt de soif en fait. Je me pose toutes ces questions. Je continue à manger un peu de neige, mais c'est très froid, ça me donne encore plus froid. Donc voilà, me vient l'idée de boire mon urine. Du coup, je décide de faire pipi sur mon gant et ensuite de boire tout ce qui est imbibé dans mon gant. En plus, c'est chaud et je suis dans une telle situation, ça me dégoûte même pas en fait. Voilà, j'ai la mort qui est tellement proche de moi, je veux vivre et je suis sûre que ça va me faire du bien. Donc je décide de le faire. Donc après cette deuxième nuit là-haut, c'était comme la veille, vent, brouillard, neige. Et dans ma tête, le prochain créneau de beau temps, c'était le samedi matin. Et du coup, on est jeudi matin et je me dis, samedi matin, il va y avoir un créneau de beau temps, l'hélicoptère pourra décoller et venir te chercher. Et je me suis fixé ça dans ma tête et en fait, c'est ce qui me permet un peu de tenir. Je réalise en fait que j'ai pas du tout envie de mourir là-haut, toute seule. À 21 ans, je suis consciente que tout est de ma faute et que je mérite en fait ce qui m'arrive à ce moment-là. J'avais pas les capacités techniques et je me suis lancée trop tôt en fait dans ce projet. J'étais pas prête. Et puis quatrième nuit, en fin de nuit, je fais un rêve assez étrange. Je rêve qu'il y a un secouriste du PGHM qui est avec moi dans le trou. Et il me dit, mais t'inquiète pas, il y a l'hélicoptère qui arrive. J'ai l'impression que je sais que je rêve, mais je suis tellement contente en fait de rêver de ça et qu'il soit là avec moi que j'ai pas envie de me réveiller en fait. Jusqu'au moment où j'entends le bruit d'un hélicoptère qui s'approche. Et quand je le pense à ma portée, je me lève et ils sont à quelques mètres en fait de moi. Et ils me voient tout de suite. Je leur ai fait des immenses signes, et même s'ils m'ont vu tout de suite, j'ai continué à leur faire signe. Je voulais être sûre qu'ils me voient bien, et ils m'ont vu. Et donc ils se sont mis en vol stationnaire au-dessus du trou, peut-être à une 15-20 mètres au-dessus de moi. Et le secouriste est descendu au bout d'un câble. Au moment où il m'a accroché son mousqueton, je me suis dit, c'est bon, je suis sauvée. Je me suis agrippée à la jambe de Jeff, mon secouriste, et il m'a tout de suite pris la main. Et quand je suis rentrée dans l'hélicoptère aussi, les deux, donc le mécanicien et le pilote, ils se sont retournés en même temps et m'ont fait un grand sourire. On sentait que qu'ils y avaient mis du leur dans ce secours. Richard, qui était le pilote, c'est vraiment lui qui a pris la décision en fait de décoller ce matin-là. La plupart des personnes me pensaient morte. Pour mon père, j'étais morte, ils allaient retrouver un corps. Et c'est vrai que Richard, il avait gardé un peu cet espoir. Et vers 4 heures, quand il a commencé à voir les étoiles, il a vraiment pris la décision d'appeler tout le monde et de dire « on va à l'hélico ». Et à 6 heures, ils ont eu une petite ouverture qui leur a permis de décoller, de survoler le couloir une première fois, où ils n'ont rien vu. Ça me terrifie aussi de me dire que je ne les ai pas entendus une fois. Donc ils décident de survoler une deuxième fois le couloir, et ce coup-là, c'est la dernière. Vraiment, l'hélicoptère, le nez vraiment presque dans le couloir pour voir n'importe quel indice et le remonter tout tout doucement. Et au moment où ils s'attendent le moins, et ben, ils me voient jaillir en fait, du trou, et il n'y avait plus rien qui était visible. En fait, il avait tellement neigé que toutes mes traces, tout le couloir était blanc, en fait, immaculé. Donc je suis sortie de nulle part. Et après m'avoir déposé à l'hôpital de Sallanches, l'aiguille verte était de nouveau en fait dans les nuages pour plusieurs jours. Et donc ils ont eu une fenêtre météo de 2 heures pour me récupérer. Arrivé à l'hôpital, j'ai vu assez vite un médecin qui a regardé l'état de mes pieds et qui m'a dit gelure stade 4. Et ça s'est fini donc en une amputation de tous mes orteils. En fait, la première pensée que j'ai eue quand on m'a dit qu'on allait me couper les orteils, c'est que j'allais plus pouvoir faire d'escalade. Après, j'ai parlé à des gens, à des médecins qui m'ont dit que si je voulais regrimper, je pourrais regrimper. Et puis, j'y suis retournée avec des amis, bien sûr, pas toute seule. Pas des trucs durs, mais c'était juste pour retourner un peu dans ce milieu de haute montagne et pas rester sur cette image de froid, de mort, en fait. Des belles courses ensoleillées et... Il n'y a pas besoin de faire des choses extrêmes, comme avant je le pensais, pour être heureux.
France Culture, les pieds sur terre.
J'étais une enfant plutôt intrépide et je rêvais de vivre une vie d'aventure. Et puis lorsque j'ai eu à peu près à l'âge de 8 ans, mon père nous a déclaré « je vais m'inscrire à l'aéroclub d'Auvergne et je vais apprendre à piloter ». Et je me suis dit « mais l'avion, c'est un moyen idéal pour vivre cette vie d'aventure et d'exploration ». Donc à 15 ans, j'avais économisé un peu d'argent. Avec cet argent, je me suis inscrite à l'aéroclub d'Auvergne, là où volait mon père, et j'ai commencé à prendre mes premières leçons. J'ai même fait mon premier vol solo. J'avais même pas mon permis de conduire. À 15 ans, vous pouvez voler seul dans le ciel. Et donc, on arrive le 12 mai 1991. Ce jour-là, l'aéroclub avait prévu une balade. Et l'objectif, c'était d'aller à la rencontre des pilotes de Canadair à Marignane. Et puis, donc, avec mon père, on part de Noirétable. Et puis, sur la route, on voit bien que... la météo est pas de notre côté ce jour-là. Et on arrive, c'est les premiers sur l'aérodrome de Clermont. Et immédiatement, on va voir le météorologiste. Et il nous dit, sur le massif central, c'est tout bouché, ça passera pas. Et les autres pilotes sont arrivés. L'un d'eux a dit, bon, on y va. Et ben, si ça passe pas, on fera demi-tour. Donc, nous voilà partis en direction de Marignane. Donc on était comme un peu dans un brouillard, pas très épais. Sauf que, à un moment donné, un mur de nuages devant nous, c'est-à-dire une masse sombre, compacte. Alors à ce moment-là, le copilote à côté qui crie « Putain, qu'est-ce que tu fous? Tu vas nous faire casser la gueule ?» Moi, j'ai pris peur, je me suis rattachée. Et je ne sais pour quelle raison, le pilote, qui était pourtant expérimenté, a foncé tout droit. Et les nuages nous ont engloutis, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a totalement perdu le contact visuel avec le sol. Dans ce cas de figure, lorsque vous rentrez dans les nuages et que vous n'êtes pas entraîné pour voler dans les nuages, En 3 minutes, vous êtes mort. Et donc, on est rentré dans les nuages. On a percuté la cime des arbres sur le flanc d'une montagne, au mont Alhambre. Avec la violence, l'impact, les pilotes à l'avant sont morts. Mon voisin, il a été éjecté en dehors de l'appareil. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette région, il y a eu des dizaines et des dizaines de crashs, y compris d'avions de chasse. Et de tous ces accidents, je suis la seule rescapée. Donc j'étais complètement coincée dans cette carlingue. Je ne pouvais pas m'extraire de l'appareil. Et ce que je ne savais pas non plus, c'est que j'avais un pied coincé sous le siège du pilote, avec une fracture ouverte. Mais de toute façon, je ne sentais plus rien à ce moment-là déjà. Les secours mettront 12 heures pour retrouver l'appareil. Et je suis une miraculée parce que ce qui s'est passé, c'est que l'hélicoptère nous cherchait. Il ne nous trouvait pas à cause du mauvais temps. Donc j'ai appelé au secours. Et là, par chance, un secouriste se trouvait à 80 mètres plus haut et a entendu mes appels au secours et s'est guidé à ma voix. Alors lui, il est venu prêter main forte au secours. C'est un radio amateur. Et ils ont entendu ce jour-là qu'un avion avait disparu. Et ils connaissaient particulièrement ce mont Alhambre. Ensuite, je ne me souviens pas du tout quand il est arrivé. Pourtant, on s'est parlé. Et je sens bien que cette histoire a bouleversé sa vie. Il ne veut pas me dire exactement ce qu'on s'est dit. Il m'a juste dit, voilà, je suis arrivée, j'ai vu une petite fille de 16 ans. Je suis entourée de trois personnes qui sont décédées et je le sais qu'elles sont mortes. Je le sais pertinemment. Mais je ne me souviens pas de ce que j'en ai ressenti pour autant. J'avais la certitude qu'ils étaient morts. Mais je ne me souviens pas vraiment de ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Alors après, la mémoire revient. Je pense que mes souvenirs reviennent d'une semaine après, quoi. Puis vous savez, on vous met sous morphine. Enfin, au début, on réalise pas du tout ce qui nous arrive. En fait, les médecins, c'est pas tellement eux qui vont m'annoncer la paraplégie définitive. En fait, c'est moi qui vais le comprendre. Parce que un matin, bon, je fais mon transfert sur le fauteuil. C'est pénible, vous savez, transférer, c'est par la force des bras. Vous passez du lit jusqu'au fauteuil, ok. Je descends faire ma kiné. Et c'est là où je lui ai posé la question très franchement. Je lui ai dit, mais quand est-ce que ça va revenir? Et là, elle m'a dit, tu sais, Dorine, il se peut que ça ne revienne jamais. Et là, j'ai compris. J'ai dit, mais bien sûr, ça ne reviendra jamais. Forcément. J'ai perdu mes jambes, quoi. J'ai perdu ce qui fait que j'étais une personne entière, libre. Et en même temps, comme vous êtes rescapé, ça vous donne quelque part pas le droit de vous plaindre. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre, vous êtes vivante. Je suis remontée dans ma chambre et là je me suis enfermée et j'ai pleuré jusqu'au lendemain matin. Je voulais en finir avec la vie. Et au petit matin, j'ai entendu des éclats de rire. Je suis allée voir. Et là, c'était deux jeunes. Ils avaient à peu près mon âge, quoi, qui faisaient les cons avec les fauteuils, qui faisaient la course dans le couloir. Et j'ai compris que ben peut-être je pourrais me relever. Et très vite, s'est imposé l'idée de reprendre les commandes d'un avion. Alors, faut vous situer, on était en 1991. On avait des fauteuils qui pesaient 15 kilos et surtout les mentalités. Moi, c'est simple, hein. À ce moment-là, on m'avait dit que mon avenir, ce serait les allocations familiales et le canapé. J'avais 16 ans. Et ben après, comment faire pour savoir si je pouvais revoler et s'il existait des avions équipés de commandes manuelles. Et parallèlement, j'avais écrit un témoignage dans un magazine aéronautique et le président de la section handicap de l'aéroclub Midi-Pyrénées à Toulouse me répond en me disant « Mais venez voler chez nous, vous serez la bienvenue, on a des avions adaptés de commandes manuelles de pilotage. » C'était une bonne chose de remonter très très vite. Ce qu'il faut prendre conscience, c'est que vivre en fauteuil roulant, c'est comme si vous étiez dans les embouteillages. Tout est compliqué, tout est énervant. Mais quand vous êtes en avion, vous glissez sur les filets d'air, vous êtes comme dans une bulle. Donc c'est ça aussi que j'allais chercher. Et donc je suis devenue la première femme handicapée au monde, pilote de voltige. C'est une belle revanche. C'était Le Grand Frisson, épisode 4, un reportage d'Alice Milo réalisé par Vincent Deck. Merci à Gaëlle et à Dorine. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre. Et c'est Nino Lima, notre stagiaire.